ne répondent pas.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous propose ce nouveau numéro de son émission Échange citoyen, parole aux auditeurs. Plusieurs rapports des experts et observateurs font état d'un système éducatif congolais au rabais. Pour pallier cette réalité qui gangrène ce système éducatif afin d'améliorer la qualité de l'enseignement en RDC, l'ONG Le Net à l'école estime que tout passe notamment par l'alphabétisation numérique de l'enseignant. Madame Chantal Bouet Ndoua, coordonnatrice de l'ONG, précise que grâce au financement des banques ou encore d'autres partenaires, l'enseignant devrait acquérir un ordinateur dont les modules de l'UNESCO y seront incorporés. Alors quels sont selon vous les préalables pour la réussite d'une telle démarche? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiokapi.net. Nous accueillons donc toute l'équipe qui concourt à la production de cette émission, Marcel Ngombombala et Sylvain Matundu. Ces programmes et coordonnées présentés par J.R. Lungembo, Luabung, Angie.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le réel plaisir d'accueillir dans ce studio Madame Chantal Bouindoua qui est avec nous. Bonjour Madame Bouindoua.
Bonjour.
Vous êtes coordonnatrice de l'ONG Le Net à l'école. Présentez-nous d'abord cette ONG. Elle a été créée quand?
Voilà, l'ONG Le Net à l'école est née en 2016. Oui, et cela suite à un constat plutôt amer, parce que nous avions constaté que la qualité de l'enseignement en RDC était vraiment au rabais. Il y avait un manque de livres, il y avait un manque de matériel didactique, manque de labos, pas de bibliothèque. Tout cela a contribué à la baisse au niveau de cette qualité. Par conséquent, dans cette situation, l'enseignant s'est retrouvé démuni, obligé de travailler avec les moyens de bord, pas outillé pour mener à bien la tâche qui lui était assignée, sans oublier le manque de formation continue. A-t-on oublié que l'enseignant, c'est lui le pilier de l'enseignement? Voilà la question que je pose.
Alors quand on dit que, ben, je crois que vous êtes parti de ces constats, et vous avez été motivé pour créer cette ONG, et vous engagez dans cette démarche de pouvoir amener l'enseignant à retrouver sa valeur. Mais nous savons tout de même qu'à une certaine époque, en RDC, l'enseignant, c'est l'enseignement où l'enseignant était, disons, la personne de la créer, professionnel de la craie, comme on les appelle, était quand même, c'est un métier noble, mais aujourd'hui, ça a perdu quand même sa valeur.
Tout à fait. En fait, comme vous le dites, c'est vraiment un des métiers le plus noble, comme celui de médecin. L'enseignant, lui, il doit faire le mieux qu'il peut pour transmettre les meilleures connaissances à l'élève. C'est comme le médecin, quand il traite, il a devant lui un malade. Il doit trouver le traitement le plus approprié et le meilleur pour chacun qui se présente devant lui. Et c'est la même chose avec le médecin,
l'enseignant.
Mmh. C'est tout à fait ça. Il doit donner le meilleur de lui, mais il faut l'outiller.
Transformer les cerveaux.
Voilà, tout à fait. Les cerveaux, en général, le cerveau qui lui arrive à l'école primaire, ce sont des cerveaux qui sont vierges. Et qu'est-ce qui va insuffler? Qu'est-ce qui va motiver cet enfant à apprendre? C'est l'enseignant, c'est lui. C'est lui qui fait la plus grande
part. Donc, en d'autres termes, c'est un acteur principal dans le partenariat éducation, parents, élèves et l'école.
Tout à fait. Mais voilà, cela fait deux décennies, ça l'a fait plus de deux décennies d'ailleurs, qu'on déplore la mauvaise qualité de l'enseignement. Mais qu'est-ce que nous faisons à ce sujet? Voilà la question. Certes, les défis sont nombreux. Il y a peu de moyens, les finances ne sont pas là. La taille du pays, c'est un continent. L'état des infrastructures, des routes, des écoles, le problème de courant. Mais nous devons trouver des solutions appropriées à nos problèmes.
Alors, vous pensez que la solution, c'est d'abord capaciter l'enseignant en ce qui concerne l'informatique. Est-ce que c'est important?
Tout à fait, tout à fait. Tous les experts sont unanimes à ce sujet. Nous, nous avons un retard déjà de plus ou moins 30 ans. Hein, les États-Unis
plus ou moins 30 ans.
30 ans. Les États-Unis ont commencé 30 ans, donc les années 90, hein, bien avant, hein. Et je me souviens, j'étais en Belgique dans les années 90, et là, j'ai pu, moi, avoir un ordinateur.
Pour la première fois.
Pour la première fois, et j'ai pu avoir mon email adresse. C'était en 90. Hein. Alors, et ça a commencé progressivement dans les écoles. On a équipé les écoles, etc. On a formé les enseignants. Donc, nous avons un retard de plus de 30 ans. Alors, que faire? Les nouvelles technologies, tous les experts le disent, ils sont unanimes là-dessus. Cela va contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Parce que, et d'ailleurs, moi je pense que nous allons y gagner doublement. Parce que le manque de livres, comment va-t-on pallier à ça? Alors, nous savons que...
Il n'y a pas assez de partenaires qui distribuent, qui mettent à la disposition des enfants, des élèves, des écoliers même, des ouvrages appropriés pour l'information.
Tout à fait. Et il nous faut des bibliothèques. Nous, à notre époque, on a vécu, on avait des bibliothèques.
Mais il y a des bibliothèques aujourd'hui en ligne.
Voilà justement. C'est ça, c'est à cela que je voulais en venir. L'Internet, c'est la plus grande bibliothèque du monde. Donc, le manque de livres, nous aurons ça à la portée. Même le matériel didactique, hein, tout ça va être comblé. Vous voyez? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez outiller l'enseignant, vous allez lui acheter l'ordinateur.
Bon, les objectifs poursuivis. En fait, l'objectif global, c'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement par l'intégration de nouvelles technologies dans la pédagogie. Mais évidemment, les objectifs.
Mais il y a certaines écoles qui ont déjà commencé avec le Scolab. Bon, ils ont déjà commencé ça.
On va y arriver.
Ce sont des écoles privées ou.
On va y arriver. On va y arriver. Hein. Alors, il faut. Ce que nous poursuivons, c'est améliorer les compétences techniques et pédagogiques de l'enseignant. Relever son niveau de connaissances. Parce qu'il va avoir accès à une multitude, à une variété de logiciels éducatifs. De données scientifiques, etc. Et puis aussi, il pourra accéder à des cours en ligne gratuites. Alors, nous devons aussi parvenir à ce que l'élève s'approprie les TIC grâce à l'enseignant qui lui va maîtriser.
Les TIC, vous voulez dire par là quoi exactement?
Informatique, donc l'ordinateur. Ici, on parle spécifiquement de l'ordinateur.
Les computers.
Voilà. Et de cette façon, on va introduire le système, le numérique dans le système éducatif. Nous devons aussi, c'est un moyen pour renforcer les capacités des enseignants par l'intégration des TIC. Voilà. Donc.
Non, mais les problèmes, maintenant, la question, parce qu'on sait que la démarche, elle est très bonne. Ouais. Qui va outiller l'enseignant de l'ordinateur?
Alors.
Parce que tout ça au centre, l'enseignant, oui. qu'on veut changer sa façon de faire, il faudrait qu'il ait les moyens pour y arriver. C'est-à-dire, ces moyens passent d'abord par l'octroi d'un ordinateur à un enseignant.
Tout à fait.
Et comment ça va se passer?
Bon, si je pouvais un peu donner notre parcours.
Tout à fait.
Vous allez comprendre pourquoi on a abouti à la démarche. Que je vais vous exposer. Alors, nous nous sommes butés. D'abord, nous créons l'ONG parce que nous avons vu un problème. Et puis, nous avons...
Vous avez partagé l'idée avec d'autres partenaires de l'éducation, notamment les écoles publiques.
Les écoles,
les responsables et les autorités.
Voilà. On a fait des présentations dans les écoles. Devant les enseignants, c'était pour les sensibiliser, les conscientiser et dire voilà, nous pouvons dès aujourd'hui avoir les ordinateurs, vous outiller avec des ordinateurs. Mais on s'est buté au problème de finance. Mais ça ne devrait pas être un problème parce que c'est un outil qui est aujourd'hui indispensable. Et l'enseignant, on doit le former, c'est impératif pour l'éducation. Pour l'éducation, on ne peut pas passer autrement. Alors, nous, on a parlé...
Avec les enseignants d'abord.
Ensuite, on est passé...
Quel était le feedback?
Le feedback était bon. Hein? Mmh. Ah oui. Ça, les enseignants, la majorité sont d'accord.
Alors, deuxième étape, hein? Oui.
De deux, en fait, la motivation peut être différente. Hein? Mmh, mmh. Il y en a qui veulent avoir la machine d'un point trait. Hein? Mmh. C'est pour eux, voilà. Mais c'est à nous de faire le travail de le faire comprendre les enjeux qui sont derrière. Hein? Alors, on a parlé aussi aux coordinateurs nationaux.
Donc, des responsables.
Des responsables.
Des réseaux. Des écoles conventionnées. Voilà. Catholiques, protestantes,
évangélistes
et salétistes.
Voilà, exactement.
Quel était alors le feedback?
Là, on a été écoutés. On a même assisté à des.
Et vous avez eu quelle impression quand vous parlez avec ces responsables?
En fait, tous ils sont. Ils trouvent que l'initiative est bonne. Mais ils ne voient pas comment ils peuvent intervenir.
L'imminence, le traitement imminent de cette démarche?
Non, je crois que ça ne fait pas encore partie de leur préoccupation. Ce n'est pas ça.
Donc vous aviez l'impression que c'est le cadet de leurs soucis? Pas tellement.
On pourrait dire ça. Ce n'est pas vraiment parce que je n'ai pas vu un feedback. On ne m'a pas rappelé pour dire voilà, est-ce qu'on peut faire ça comme ça?
Alors, quand nous quittons maintenant les responsables des écoles, des réseaux, est-ce que l'État qui est aussi partenaire, parce qu'il y a l'État, il y a l'école et puis les parents, l'élève lui-même, mais quand vous avez parlé avec les différentes coordinations, vous avez vu que le feedback, bon, c'est comme si c'était pas imminent, c'était pas à faire tout de suite, c'était pas la priorité, l'enseignant, lui, ça pose pas de problème, c'est vrai qu'il y a le problème de motivation, mais l'État, est-ce que vous avez eu, si nous référons à la dernière, le plan de numérisation du pays, prend en compte également le secteur de l'éducation.
Tout à fait.
Quel était le feedback du côté
Il y a deux ans, avec notre projet cadrait vraiment avec la vision du président de la République, qui, lui, a mis l'amélioration de la qualité de l'enseignement une des priorités. En plus, j'avais assisté au plan national du numérique qui avait été lancé il y a deux ans, en 2019. J'ai assisté, le président a encore dit une fois, il a émis le vœu de voir, d'introduire le numérique dans le programme d'éducation à tous les niveaux. Donc là, on parle même de l'école primaire. Alors, fort de tout ça, on a envoyé des lettres au ministère de l'EPST. On a même été reçu par un conseiller. Qui vraiment, c'est vraiment une bonne initiative, mais sans suite. On a été chez le conseiller du numérique, le conseiller principal.
À la présidence de la République. Qui vous a reçu?
Oui, et pas lui, c'est son secrétaire.
Son directeur de cabinet ou secrétaire?
Voilà. On a vraiment eu une séance de travail, on a discuté, on a plus d'une heure.
Après?
Toute l'équipe.
Et après?
Mais après, il nous a dit,
qui finance?
Nous, oui.
Parce que c'est ça que généralement, la question qui revient toujours quand il y a des projets qui financent,
c'est qu'est-ce
que vous amenez?
Non, eux, ils ont dit ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas encore les moyens.
Donc l'État n'a pas de moyens
pour nous appuyer.
Mais en même temps, c'est l'intention déjà dans le plan numérique.
Tout à fait.
Ils n'ont pas l'argent pour vous
appuyer. On a pensé peut-être qu'on était un peu trop tôt là. Pourtant, depuis 2016, on était en train de nous buter contre des murs. Et puis, on a aussi eu la chance d'avoir un conseiller... un envoyé spécial du président qui, lui, a pris aussi la problématique à cœur. Il a dit, nous allons faire un mémo que nous allons envoyer à la présidence. On a envoyé le mémo à la présidence. C'est des lettres qui n'ont jamais de réponse.
On ne reçoit jamais de réponse. Silence radio jusqu'à aujourd'hui.
C'est silence radio, mais au moins, on a pu rencontrer, grâce à l'envoyé spécial, on a pu rencontrer le conseiller principal en matière d'éducation. Encore une fois, très bien accueilli.
Des lettres, des correspondances.
Oui.
Et après, silence radio.
Silence radio. Voilà, on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas baisser les bras.
Alors, parce que maintenant, il y a silence radio du côté de certains partenaires. Aviez-vous cherché d'autres partenaires qui pouvaient venir à l'appui, notamment les banques ou encore d'autres personnes?
Oui, voilà. Alors, nous avions pensé aux investisseurs étrangers, tout ça. On a fait quelques démarches, mais vous savez bien, avec la situation.
La Covid qui était arrivée.
Covid est arrivée. Bon, alors, on s'est dit, qu'on change l'approche, qu'on trouve une approche plus pragmatique, à notre niveau. Alors là, on a parlé aux banques, on a approché des banques, Est-ce que c'est possible que ce projet soit préfinancé? Mais il y a au moins 3 banques. On s'est arrêté à 3 parce que bon, on a 14.
Ben, c'est pas de la publicité, mais quand même le fait qu'elles prennent à cœur ce dossier, on peut quand même citer okay. quelques banques, Advance Bank.
Non. Il y a eu FBN Bank, mm-hmm. hein, First Bank of Nigeria.
Qui a donné son accord.
Qui a donné son accord.
Son cutis, ouais.
L'accord de principe. Hein. Oui. On a eu Access.
Access Bank.
On a parlé aussi à Rao Bank.
Donc les trois qui ont donné l'accord.
Les trois. Donc, vous voyez que ce projet-là, ils peuvent l'appuyer. Ils peuvent. Mm-hmm. Ah oui, parce que c'est une banque.
Comment vont-elles appuyer ces projets concrètement?
Ils sont d'accord.
Il ne faut pas acheter des ordinateurs pour les...
Non, ce n'est pas ça. C'est le préfinancement. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut acquérir le matériel.
Réel, ouais.
hein? Mais à condition que, il y a la condition que ce soit les décideurs hein, qui accordent, qui permettent
qu'on ponctionne quelque chose dans les salaires de l'enseignant.
De l'enseignant.
Un petit rien.
Un petit ouais. par mois. Un crédit à long terme, hein. Ben, on peut faire 2 ans.
Un ordinateur qui peut coûter combien concrètement? 200, 300 dollars?
Moins de 300 dollars.
Moins de 300
moins
dollars.
De 300
Déjà, le salaire de l'enseignant ne peut pas lui permettre d'acheter ça.
Non.
Si on lui accorde un crédit, c'est lui faciliter.
C'est lui faciliter. Lui, chaque mois, on va ponctionner un peu d'argent et il va avoir 2 ans, peut-être, pour repayer, mais il aura déjà le matériel. On va lui donner le matériel.
Et dans cet ordinateur, qu'est-ce qui sera incorporé?
Ouais,
mais vous allez mettre quoi?
Nous insistons d'abord sur la formation. Mm-hmm. Et là, nous avons eu la chance nous sommes partenaires avec l'UNESCO. Nous avons accès, nous avons eu la permission d'utiliser les modules
de l'UNESCO.
Formation de l'UNESCO sur l'initialisation et la familiarisation mm-hmm. à l'outil informatique. Alors, avec ces modules-là, nous pouvons former l'enseignant et puis le télécharger dans son ordinateur. Il pourra continuer lui-même à la maison. Hein? Alors, c'est partout. Hein? Dans tous les rapports, vous allez lire, on ne peut pas former sans équipement. Il faut outiller. Mm-hmm. Comment vous allez motiver quelqu'un qui va lire l'informatique, l'ordinateur sur les photos?
La théorie.
Voilà, la théorie, c'est impossible. Même si vous faites la pratique une fois, mais 2 mois après, puisqu'il n'a pas à l'école,
Alors, Madame Chantal, on va revenir le temps, parce que je vois là, les téléphones commencent déjà à sonner. Oh. Alors, on va prendre quelques auditeurs qui nous ont rejoints à cet échange citoyen. L'ONG Net à l'école, qui estime que tout passe notamment par l'alphabétisation numérique de l'enseignant. Vous venez de suivre notre invité et vous pouvez participer à ces débats avec vos préoccupations et pourquoi pas avec vos analyses. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui se poursuit avec vous, Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Jérémy.
JR, bonjour également madame l'invitée. Je pense que il faut saluer ce geste, il est de grande envergure, certes, parce que l'acquisition de cet outil vient booster, n'est-ce pas, la production du savoir à l'enseignant, mais je voudrais ici rappeler que le système éducatif connaît, n'est-ce pas, est au rabais tout simplement d'abord d'entrée de jeu parce que l'acteur principal, qui est le professionnel de la CRE, n'est-ce pas, subit un traitement totalement dégradant, n'est-ce pas, dans notre pays, là, vous êtes sans ignorer cela, alors qu'il met d'ailleurs en conflit avec sa conscience, voire même son moral, qui est jusque-là totalement entamé, en l'instar, je me dis, d'un joueur, vous savez, lorsqu'un joueur est dans une équipe X, il présente une figure, piètre figure, n'est-ce pas, mais lorsque on met des moyens conséquents, donc, c'est-à-dire devant lui, vous voyez qu'il change carrément des visages. Je pense que c'est comme ça que l'enseignant, je pense que la machine qu'on doit octroyer à l'enseignant, pour le moment, dans ce pays où l'enseignant a une vie misérable, je pense que ça ne servira d'emblée à quelque chose parce que je vois que l'enseignant, pour le moment, la priorité de l'enseignant, c'est les traitements qui doivent être vraiment honorant parce que c'est lui qui donne l'avenir de tout un pays, monsieur JR. Je pense que à ce stade, si on met d'abord un, je pense que cette organisation devrait peut-être aller en appui à l'État congolais qui jusque-là n'est pas à mesure de pouvoir assurer les traitements conséquents vis-à-vis de l'enseignant. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Il y a maintenant les mots qui gangrènent les systèmes éducatifs, notamment la corruption aujourd'hui. Deuxièmement, c'est tout simplement l'enseignant, la malhonnêteté, hein, que pour certains enseignants, tout simplement dû au mauvais traitement dont ils sont vraiment victimes. C'est ce qui fait que le système éducatif ne peut pas continuer à présenter l'espoir dans ce pays. Tout simplement, moi je me dis à ce stade, la bonne prise en charge constitue la clé de l'éducation.
Oui, mais en attendant cette prise en charge, parce qu'on ne doit pas continuer à laisser ce qu'on peut faire aujourd'hui, notamment en changeant les systèmes éducatifs, pour au fait réduire ce retard que nous avons déjà accusé du côté de la numérisation de notre système éducatif.
Oui, monsieur Gilles, vous savez que notre pays est entouré de beaucoup de problèmes. Et vous savez que certaines choses n'avancent pas dans ce pays parce que l'enseignant qui est producteur du savoir, qui produit les cadres de ce pays, est totalement marginalisé. Regardez dans l'époque coloniale. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Après l'indépendance, l'éducation, le système était vraiment était bien. Le système éducatif n'a pas connu de problèmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il y a beaucoup de choses qui, il y a des innovations, mais comment expliquer ce paradoxe-là? La baisse de niveau de l'enseignement, tout simplement parce que les jours qu'on prendra l'enseignement et l'enseignant avec honneur dans ce pays, ce serait la clé de délivrance pour le système éducatif.
Merci beaucoup, Jérémy.
On voit un ministre aujourd'hui, il fait de bons projets, mais il enseigne. Ses étudiants n'arrivent pas à reproduire textuellement ce que...
Oui, faute de matériel didactique, aujourd'hui traditionnel, on demeure encore dans les traditionnels. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, Kalo Kaloji, vous êtes en Boujimaï. Bonjour, Kalo.
Bonjour, monsieur Gier, et bonjour à votre invité du jour, et bonjour à Marcel, vraiment, qui participe à cette émission. Moi, je pense qu'après la dérégulation de notre pays, le pays a connu des tribulations lesquelles ont affecté plusieurs secteurs du pays, y compris l'éducation. Et ce qui a provoqué l'effondrement du système éducatif. Pendant, en 1960, comme l'a dit notre ami de Lubumbashi, les secteurs portaient de l'espoir. Et si moi, ça signifie par la qualité de l'enseignant et les enseignements que lui-même a reçus, monsieur Gier. Pendant dans ce temps-là, l'enseignant était plus respecté. Je sais de plusieurs avantages, notamment les salaires, comme une motivation. Et être un enseignant était vraiment un honneur et un privilège. Mais aujourd'hui, là, si nous parlons d'un enseignant, nous ne pouvons pas dire seulement la numérisation et voir aussi doter un enseignant de l'ordinateur. Mais ce qui est important ici, M. Gilles, comme l'a dit notre ami, moi je trouve que notre système a beaucoup de fléaux qu'il faut d'abord enlever. La première des choses, c'est les traitements, comme l'a dit notre ami, les conditions de vie de nos enseignants.
Mais entre-temps, Kalo, si jamais on améliorait les salaires de l'enseignant sans améliorer les contenus qu'il va donner à l'enfant, pensez-vous, parce que nous avons vu la Covid, c'est qu'elle a causé comme désastre. La Covid a causé des désastres dans des pays sous-développés où les enfants n'avaient pas accès à l'outil informatique, où l'enseignant lui-même ne pouvait pas se capaciter et ça posait énormément de problèmes. C'est pourquoi certains experts estiment que on les appelle professionnels de la crise.
N'oubliez pas qu'en 1960, notre système éducatif, c'est-à-dire il y avait un enseignement de qualité dans notre pays.
C'était un enseignement missionnaire parce que les missionnaires apportaient.
Il n'y avait pas des ordinateurs chez nous, mais nos parents, nous, ont étudié dans de bonnes conditions où l'enseignement.
Oui, mais Kalo, au fond de l'enseignement, ce sont des matériels didactiques. À l'époque, avec l'enseignement missionnaire, les missionnaires ont apporté et la bibliothèque et les d'autres matériels didactiques pour soutenir l'enseignement. Mais ce qui n'est pas le cas, nous nous souvenons de la coopération qui a existé entre les Zaïre à l'époque ou les Congo avec les Haïti. en matière de l'éducation.
Je suis d'accord de la maintenant j'ai dit la numérisation dotée l'enseignant d'un ordinateur n'est pas le socle pour le développement du système éducatif. Ici il faut ajouter plusieurs éléments qui doivent concourir pour que le système éducatif congolais puisse booster. Moi je cite ici d'abord les premières des choses, c'est le traitement d'un enseignant.
Son salaire à lui.
Moi je ne trouve pas tout ce qu'on peut faire là, moi je peux prendre vraiment des histoires.
Est-ce que vous pensez que dans 2-3 ans le salaire de l'enseignant sera amélioré? Parce que déjà, le budget de 2022 n'ajoute que sur le salaire de l'enseignant $40. Est-ce que ce dernier sera-t-il à même de pouvoir se taper le luxe d'avoir un ordinateur à lui-même?
Mais apparemment, un $40 ajouté à un enseignant, monsieur Gér, vous trouvez que c'est quelque chose? Moi, je trouve que c'est encore craché sur un enseignant. $40, on ajoute sur le vidé. Moi, je ne trouve pas. Cela ne peut pas vraiment.
Merci beaucoup, Kalo. Alors, on va prendre Sylvain. Voilà, on va prendre Sylvain. Sylvain, vous avez rejoint. Vous êtes avec nous à Kisangani. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité, aux intervenants et à tous nos auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution, Sylvain?
Exactement, monsieur le journaliste. La question que je me pose personnellement est de savoir est-ce que pour relever les défis éducatifs, il faut passer par la numérisation en priori? Moi, je ne réponds pas par lui. Je ne réponds pas par lui, d'autant plus que sur terrain, il y a des conditions qui rogent notre système éducatif et qui nécessitent des réformes. Monsieur le journaliste, je vous dis, le système éducatif actuellement devient commercialisé. Commercialisé d'autant plus que pour réussir dans un cours, il faut protéger les entrailles de l'enseignant. Je ne pense pas que c'est par manque de numérisation qu'il procède à ces antivaleurs-là. Et regardez même dans le système de recrutement des assistants, tout consort. Vous allez constater qu'un assistant, ce n'est pas celui qui est passé par la méritocratie. On ne recrute pas l'assistant en tenant compte de son quotient intellectuel, mais on recrute l'assistant en tenant compte des affinités. Vous verrez aujourd'hui, ce sont les enfants des professeurs qui deviennent des assistants. Mais lorsqu'un acteur est politique et devient ministre, c'est sa famille politique qui bénéficie de ces recrutements pour que ces gens-là soient dans nos université comme des assistants. Mais quand on n'est pas bien formé, comment on doit prétendre former les autres? Moi, je pense qu'il faut commencer d'abord par relever tous ces défis-là, puisqu'on ne peut pas quand même soigner un abcès au-dessus. Ça, d'abord, on perçoit maintenant des défis. Et voilà, si on commence par là, avec la numérisation, ça pourrait aller. Je me demande, même si bon, c'est pas si c'est les problèmes de la numérisation au niveau de la ville, puisque je m'imagine ma mère qui est à Inji là-bas dans le territoire de l'Omelo-Sangourou, qui ne connaît même pas l'ordinateur et tout ça. Comment elle doit améliorer son système éducatif en vertu de la numérisation? Moi, je pense que c'est...
Mais parce que nous avons parlé de la formation continue.
Mais pour tenir compte de tous ces colonels-là, rongeurs, pour venir maintenant accéder à d'autres choses qui sembleraient être complémentaires.
Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup Sylvain. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Même si c'est une bonne démarche ou encore une bonne idée, mais le vrai problème qui se pose pour certains qui en parlaient tout à l'heure, c'est les salaires. Il faut améliorer les conditions de vie et cela va de soi. Il y aura des moyens pour se taper l'ordinateur. Est-ce que vous partagez cet avis, Madame Chantal Bouendoua?
Voilà, je vais essayer de répondre aux intervenants. Voilà. Il y a celui qui a parlé de conflit de conscience, l'enseignant, dans les conditions dans lesquelles il est, tout ça. Ce sont les conséquences du manque de soutien de l'État.
D'accompagnement,
voilà. Alors, nous, ce que nous voulons, cette initiative, c'est justement pour revaloriser l'enseignant. Parce qu'il va pouvoir avoir les connaissances nécessaires.
Parce qu'il ne faudrait pas continuer à attendre que les salaires soient améliorés, voilà, avant
c'est ça la question.
Des moyens,
voilà,
pédagogiques.
C'est ça la question. Est-ce qu'on va encore attendre, hein? Parce que...
Et on attendra pendant combien de temps?
Voilà. De notre côté, je dis que c'est tout à fait légitime que l'enseignant réclame pour son salaire. Tout à fait. Nous sommes tous avec eux. Hein? Mais de notre côté, il y a les enfants, il y a les élèves. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'aujourd'hui, ils sont pénalisés.
Être en face d'un enseignant qui a d'abord des déficits, qui est en retard sur le plan formation, qui ne sait, qui ne sait pas s'adapter.
Il y a tout ça. On hypothèque l'avenir des enfants congolais. Hein? Parce que, en fait, le numérique, comme le monsieur l'a dit, il ne voit pas l'importance. On est passé dans l'ère du numérique. Les métiers du futur seront numériques. Donc, il faut que les enfants commencent, dès l'école primaire, à manipuler l'ordinateur. Parce que c'est pas la manipulation, cette action de manipuler, mais c'est les connaissances qu'ils vont pouvoir acquérir, les compétences qu'ils vont acquérir. Parce que l'enseignement va passer de l'enseignement centré sur l'enseignant à centré sur l'élève. Parce que l'élève va devoir aller faire des recherches. Ça va le pousser, ça va lui donner des compétences comme un esprit critique. Hein? Un esprit de recherche, il voudra savoir plus, toujours savoir plus. Voilà, c'est ça, l'élève va aller au milieu. Maintenant, on va attendre jusque quand? Nous essayons de voir dans quelle mesure, hein, avec nos propres moyens d'abord. Puis, et après ça, on va sans doute, cette initiative va être appuyée par soit l'État, soit... On va avoir les investisseurs étrangers.
Alors, parce que vous avez dit que les banques avaient déjà mordu
les
banques,
rançon. Voilà.
Juste pour $200 remboursés sur deux ans.
Sur deux
et
ans.
L'enseignant a un ordinateur.
Directement.
On aurait déjà résolu un problème. Parce
un problème. Et aussi, parce qu'on parle des villages, on parle de la maman, je ne sais pas moi.
Voilà.
Mais vous savez que...
Mais... Parce qu'on est buté à ces difficultés, hein, les courants,
oui,
l'accès à l'électricité.
Tout à fait. Mais on a le système solaire. Hein? On a des chargeurs solaires.
Les énergies renouvelables.
Mais oui. On a les chargeurs solaires des ordinateurs. Les ordinateurs.
Donc, l'ordinateur, c'est tout un kit complet des formations continues.
Donc, il y a l'ordinateur. Oui, c'est un package. C'est un ordinateur avec un chargeur solaire. Parce que, même à Kinshasa, nous avons parfois des problèmes
d'électricité.
D'électricité. Donc, tout ordinateur accompagné d'un chargeur solaire. Alors, l'auditeur qui a dit, il ne voit pas la numérisation, qu'est-ce que ça amène. C'est ce qui nous tue dans ce pays. On ne voit pas l'avenir. On se focalise
sur le présent.
Le présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange?
On a besoin de manger. On a besoin
Voilà. Mais on oublie qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir des enfants.
Non, parce que quand vous dites que déjà en 90, vous étiez en Belgique,
oui,
vous aviez déjà accès à l'informatique.
Déjà. Voilà.
Mais aujourd'hui, 30 ans après,
nous
disons encore, ce n'est même pas encore. Ce n'est pas le moment.
Au moment où on parle aujourd'hui, je vais un peu.
Un pays qui est doté même d'un plan numérique.
Oh! Voilà, aujourd'hui on parle de intelligence artificielle. On parle des big data, on parle des drones. Mais tout ça c'est fait grâce au numérique. Et c'est ça les métiers du futur. Donc, nos enfants, ils vont être démunis dans 5 ans. Il y a combien qui vont sortir de l'école secondaire, qui ne va pas continuer à l'université. Mais s'il a eu une base, vous imaginez un peu, il peut toujours continuer à aller surfer sur Internet. Hein? Il va se trouver un boulot.
Le self-made.
Il va continuer une formation technique ou autre. Hein? Ça va le pousser à vouloir aller plus loin. Vous savez, quand vous êtes exposé à des données, une variété de
connaissances.
De connaissances.
Mais savoir.
C'est le cerveau qui accumule. Voilà. Donc. Je ne sais pas quelle autre question.
Parce qu'il parlait de l'importance de numérisation.
C'est impératif. Aujourd'hui, l'enseignant doit savoir utiliser un ordinateur.
Mais déjà, il y a des écoles qui ont commencé, je l'ai dit en premier.
Mais vous dites école.
Les écoles privées.
Le pourcentage par rapport à toute la République. C'est ça le problème aussi. On parle de Kinshasa. C'est Kinshasa. Mais allez à l'intérieur. Nous parlons des 145 territoires. D'emblée.
Donc, votre projet prend en compte l'ensemble du territoire
d'emblée,
national.
D'emblée. On ne parle pas de Kinshasa seulement. On ne va pas commencer si on n'est pas parti en province aussi, avec cette formation. on doit aller dans tous les territoires.
Alors, madame, on va revenir également encore à vous, le temps de retrouver d'autres auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Franck qui est à Vienne depuis Autriche. Franck, vous nous avez appelé, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Alors Franck, vous êtes avec nous? Alors on prend plutôt Marie-Paul. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi ainsi qu'à votre invité.
Voilà, vous avez la parole Marie-Paul.
Oui, monsieur le journaliste, il faut d'abord faire observer que l'éducation, c'est l'un des piliers cardinaux du développement de toute nation sérieuse. Alors l'éducation constitue au sens strict, justement, une charnière à tous les autres domaines vitaux dans un État. Alors le couac pour notre pays, la RDC, est que l'éducation nationale est le cadet des soucis des politiques. Et par voie des conséquences, elle constitue un ancrage de tous les maux infernaux. Nous avons beaucoup de problèmes. L'éducation est vraiment sabotée. Alors, le diagnostic des effets qui fait état d'un système éducatif au rabbin est logique et c'est vérifiable à tout égard lorsque nous vérifions comment les enfants sont formés, les étudiants sont formés. Il y a quand même des choses à dire. Alors, de ces faits, et la proposition de cette ONG là, la proposition de NET à l'école, c'est une proposition fondée et logique. Et d'ailleurs, cette proposition cadre avec ce que la RDC a fait, les forcing là de basculer dans le système LMD. Aujourd'hui, on parle des systèmes LMD, mais on ne peut pas aller dans ces systèmes là, on ne peut pas aller dans l'acrimage de Bologne, ça connaître l'internet. Je crois que ce projet là c'est salitaire. C'est salitaire, néanmoins, il y a des préalables qu'il faut vraiment mettre au rendez-vous. Et parmi ces préalables, il y a on doit disponibiliser quand même l'électricité dans notre pays, parce qu'on ne peut pas aller dans l'internet et sans énergie. J'ai entendu l'invité dire tout à l'heure qu'il y a l'énergie solaire qui est en vogue dans notre pays, mais cette énergie là c'est un peu coûteuse, hein, si nous estimons comment c'est vendu aussi bien dans des villes qu'à l'intérieur. C'est un peu coûteuse. Et aussi, en deuxième lieu, comme préalable, il faut qu'il y ait la volonté politique. Aujourd'hui, nos gouvernants doivent absolument prendre cette belle initiative subventionner cette initiative-là, en fait, que ces gens-là, les concepteurs trouvent des voies et moyens pour essayer de réaliser ces projets. Et aussi, comme préalable, autre, on doit mettre en place des centres technologiques d'assistance. Lorsque vous avez un ordinateur, et qu'il n'y a pas ceux-là qui savent comment vous programmer cet ordinateur, comment résoudre certains problèmes, ça va également poser problème. Et aussi, on doit mettre à la disposition des enseignants et des enseignants des ordinateurs. Peut-être dans la situation un peu dans des villes, il y a quand même quelques gens qui ont des ordinateurs, mais à l'intérieur des provinces, l'ordinateur...
Oui, nous l'avions dit ici, le problème ne se posera pas parce que quand on donne un package avec l'ordinateur et les panneaux solaires, et je crois que même l'enseignant... Au fait, on ne doit pas faire la différence au niveau des zones des enseignements parce que nous sommes sur les territoires nationaux. On ne doit pas dire que Kinshasa, c'est la capitale, c'est le Congo. Et l'enseignant, oui, qu'il soit à Kinshasa ou qu'il soit à Luebo, c'est un enseignant, c'est un professionnel de la craie. C'est-à-dire, il doit avoir accès, oui, au savoir, au même savoir et même connaissance avec l'enseignant qui est à Kinshasa, oui, parce que c'est les mêmes enfants, les mêmes âges, oui, qu'ils enseignent et qui doivent bénéficier des mêmes formations. Donc, c'est cela le problème. Merci beaucoup, Marie-Paul. Alors, Simon Tsiloulou, bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, c'est Simon Chiloulou depuis Mata du Congo central, et bonjour aussi à tous les auditeurs qui nous suivent à travers le monde. Les idées comme ça sont des idées d'abord à accepter avec beaucoup...
Oui, mais parce que vous êtes enseignant, Simon Chiloulou, vous êtes enseignant, oui, à Matadi. Mais lorsque une telle idée a été partagé avec certaines responsables de réseaux conventionnés, notamment publics, catholiques, protestants, kimbanguistes, mais on se rend compte que finalement personne ne prend ça à cœur. Et même notre partenaire, notamment l'État congolais, qui dit n'a pas de moyens, qui attend que d'autres partenaires puissent le financer. Alors comment réagissez-vous?
Le problème, c'est pourquoi j'ai toujours parlé des PAO et des PAP, donc des plans d'action opérationnels et les plans d'action prioritaires. Aujourd'hui, avec le financement innovant qui a été accepté par le gouvernement, et d'ailleurs le ministre de l'EPP...
Voilà, Simon Siloulou, si vous le permettez, nous vous gardons encore en ligne, parce qu'on nous fait signe que nous accueillons donc en ligne Monsieur Dominique Miguicha, qui est le conseiller principal en numérique du chef de l'État, qui est avec nous. Okay. Alors le temps, peut-être, tout seigneur, tout honneur, nous allons d'abord l'accueillir et puis lui poser quelques questions, hein, parce que par rapport à son emploi du temps. Alors Monsieur Dominique, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour, auditeurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à notre invitation pour éclairer un peu la lanterne. Nous sommes à l'ère du numérique. Quelle est la vision du chef de l'État sur cette question, notamment dans les secteurs de l'éducation?
S'agissant du numérique, je pense que le chef de l'État considère que pour notre pays, ce n'est plus une option, mais tout simplement une obligation. C'est la raison pour laquelle il a engagé notre pays dans une transformation numérique à partir d'une feuille de route qui est le plan national du numérique validé donc en 2019 et qui repose sur quatre piliers que sont d'une part les infrastructures numériques, d'autre part les contenus, troisièmement les usages applicatifs et enfin la gouvernance et la régulation. S'agissant du secteur de l'éducation, bien évidemment, ça impacte pratiquement tous les piliers parce qu'il y a bien sûr le défi des infrastructures. Il faut permettre à toutes nos écoles demain d'être connectées à l'Internet et de pouvoir accéder aux autoroutes de l'information. Enfin, il y a le contenu, parce que bien évidemment, il va falloir utiliser ces autoroutes de l'information pour permettre à faire en sorte que nos corps enseignants puissent accéder à du contenu, notamment dans le cadre des mises à niveau, dans le cadre de la formation continue et dans le cadre de la problématique des outils didactiques qui, comme vous le savez, sont un grand problème dans notre pays, ce qui fait que malheureusement, dans de nombreux coins, en particulier les zones reculées, nous avons des professeurs et des enseignants qui ne disposent pas du matériel didactique qui leur permettant de donner un enseignement de qualité. Le numérique est la bonne réponse à cela. Le chef de l'État en est parfaitement conscient. Enfin, il y a les usages applicatifs. Là, bien évidemment, il est question pour les fonctionnaires de l'enseignement, de tout le système éducatif, d'utiliser demain, au quotidien, les outils numériques dans le cadre de la gestion des élèves, dans le cadre de l'organisation du secteur. Donc, ce sont autant d'éléments importants. Enfin, au niveau de la gouvernance et de la régulation, c'est la loi. C'est faire en sorte que demain, il y ait un cadre légal très clair, notamment aussi qui encadre cette transformation numérique du secteur de l'éducation.
Donc, vous voyez, c'est bien tracé
et que au niveau du chef d'État, il y a un chemin qui est engagé.
Alors, lorsque vous dites, monsieur le conseiller, que demain, les secteurs de l'éducation soient connectés, vous parlez d'un demain de la Bible bientôt ou c'est peut-être à long terme?
Bon, vous savez, nous sommes un grand pays avec une superficie très importante, donc ce sont bien sûr des défis qui ne vont pas se résoudre du jour au lendemain. Cela dit, le ministre de l'EPST a déjà engagé des réformes importantes. Il y a déjà des plateformes qui existent comme ETYELO, comme SchoolApp, qui sont aujourd'hui qui collaborent aujourd'hui avec les ministères. Et donc, vous voyez que nous avons déjà entamé le chemin. Bien sûr, l'État doit prendre le relais avec nos partenaires techniques et financiers pour finalement entrer réellement dans une vraie révolution. Ça veut dire une classe informatique par école. Nous avons plus de 80 000 écoles dans notre pays. Il faudrait que chaque professeur dispose et enseignant dispose d'une tablette qui pourra être connectée, notamment par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mises à jour en termes de contenu didactique. Donc tout ça, ce sont des projets que nous allons mettre en œuvre avec
des partenaires techniques, financiers et d'autres partenaires traditionnels.
Exactement. Oui. Il y a aujourd'hui un ministère du numérique, qui a engagé un dialogue avec le ministère de l'EPST. Donc le gouvernement est conscient de ces défis à relever. Aujourd'hui, le numérique fait partie de l'équation dans le cadre du redressement de notre système éducatif.
Voilà. On ne saura pas vous prendre trop votre temps, mais je crois que vous avez été informé de la démarche menée par l'ONG Le Net à l'école, qui a dû quand même contacter certains partenaires, notamment les banques, pour aller vite en maison, notamment outiller l'enseignant aujourd'hui en termes de la formation continue d'un ordinateur, et l'enseignant pourrait payer un petit rien en attendant que l'État puisse entrer en jeu.
Je pense que ce sont autant d'initiatives que je salue, que j'encourage, parce que, vous savez, le chef de l'État l'avait dit lors de son grand discours du 3 septembre 2019, lors de la télé de validation du plan de santé numérique, l'État dans la transformation numérique ne fera pas tout. Donc il faut compter et sur les privés et sur les partenaires. Donc j'encourage ce genre d'initiative. Bien évidemment, il faut que l'État se positionne en termes de coordination, en termes d'organisation, et pour cela, le ministère de l'EPST. Et aujourd'hui, vous avez un ministre qui est vraiment, qui comprend les enjeux du numérique, et ça, je le salue. Et je pense que il faut encourager toutes les initiatives, mais les coordonner et s'assurer que, in fine, tout ça se fait dans un bon ordre. Notamment par rapport au contenu, qui doit bien sûr être contrôlé, harmonisé et validé au niveau des autorités compétentes.
Dominique Miguicha, vous êtes conseiller principal en numérique. Nous vous gardons en ligne. L'État, peut-être que vous nous accordez d'écouter juste quelques auditeurs. Et puis, Madame Chantal, qui est avec nous dans le studio. Et comme ça, on pourrait vous libérer avec peut-être la conclusion. Alors, il y a Simon Siloulou, vous êtes avec nous. Hein.
Oui, oui.
Nous vous avons interrompu parce que, bon, à tout seigneur, tout honneur, on devait recevoir notre invité rapidement. Et quelle est votre réaction après avoir écouté l'invité?
Ma réaction après avoir écouté l'invité, ça c'est une chaîne mondiale m'a suivi. Nous connaissons comment les choses ça se passe au niveau du gouvernement. Et l'intervenant de tout à l'heure de la présidence chargée de la question numérique doit s'appliquer pour s'approprier de ces projets. Les projets qui sont soutenus par la présidence de la République, lorsqu'il va au gouvernement à ces projets, c'est pris avec l'urgence. Parce que n'oublions pas que l'éducation fait partie des programmes phares du quinquennat du président de la République. Et ceci étant, il est une opportunité pour le chargé de la question numérique à la présidence de la République de s'approprier et peut-être d'inviter ces gens-là, de voir ça au niveau de la présidence. Parce que si...
Donc vous souhaitez que monsieur Miguicha invite l'ONG, le Net à l'école, ensemble, qu'ils discutent sur d'autres... Parce qu'il a dit, ils sont ouverts.
Je sais que le ministre de l'EPST a beaucoup de projets, mais lui, pour que ça soit exécuté, il soumet ça au Conseil des ministres, au gouvernement. Et au gouvernement, il y a plus de 40 ministères. Chaque ministère dépasse son projet. Et à ce moment, ça peut être étouffé parce que beaucoup de projets du ministre de l'EPC ont été étouffés. Rappelez-vous le projet de 100 000 francs congolais, tout ça qu'on sort. Mais ce qui est bien à faire, étant donné que le ministre avait convoqué tous les ministres provinciaux, il a parlé de financement innovant. Il est important de décentraliser la programmation ou sinon l'application de ces projets commence par une décentralisation normale. C'est-à-dire, on prend ce que j'ai l'ONG là, il doit créer des coordinations au niveau des provinces.
Des provinces pour étendre réellement les projets.
Qui peut appuyer.
Merci beaucoup.
Parce que souviendrez-vous, en 2019, lorsqu'on a fait l'état des lieux de la gratuité, c'est 2,4 milliards que le gouvernement ne pouvait pas disponibiliser. C'est comme ça qu'on a parlé de financement.
Des préfinancements.
Chaque province doit travailler dans le sens des mécanismes de financement innovant et créer des fonds même tentatés. Et dans ces fonds, si on pouvait injecter parmi les problèmes à résoudre le projet de cette ONG, je sais que ça fait juste marcher et vite s'adapter par rapport à l'enseignement parce que
merci
ce
beaucoup.
Projet est bon, mais il fallait commencer aussi par la formation et la sensibilisation.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Simon, on n'a plus assez de temps. L'État peut-être écouter Franck rapidement et puis on va revenir à vous. Franck, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à l'invité et aussi au conseil de la présidence et à tous les amis qui se sont déjà exprimés.
Oui, rapidement, quel est votre point de vue parce que vous avez une, deux minutes.
Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est, il y a des soucis qui s'entrecoupent par rapport à tout ce que je venais de suivre là. D'abord, nous devons rappeler que l'usage du numérique de nos jours, ce sont des options auxquelles on ne peut plus se soustraire. Donc, c'est tout à fait normal qu'on y pense et que ça soit intégré dans notre système éducatif. De ce côté-là, on n'a pas beaucoup à objecter, c'est bien normal. Mais le souci primordial, le préalable primordial, c'est aussi le traitement des enseignants. Parce que quand je suis les interventions des uns et des autres, je me rends compte que c'est comme si on veut nous faire croire qu'on peut construire un immeuble de 10 niveaux. On n'a pas fini la fondation, mais on va seulement chercher à décorer au-dessus, à placer des meubles là-bas. L'ordinateur, c'est un outil de travail qui est très nécessaire. Mais mon ami Gère, posons-nous une question tout à fait simple. Est-ce que c'est l'ordinateur qui doit travailler seul ou c'est l'enseignant qui doit l'utiliser? Et cet enseignant doit l'utiliser dans quelles conditionnalités? Un enseignant qui est mal payé, un enseignant qui n'est pas mécanisé, un enseignant qui n'a pas de couverture sanitaire. C'est comme ça qu'au début j'ai dit qu'il y a des soucis qui s'entrecoupent, mais il faut aller étape par étape. Aussi longtemps que nous militons pour l'usage de cette application dans notre système éducatif, on doit aussi déjà penser à bien traiter.
Alors vous vous souhaitez qu'on puisse attendre jusqu'à ce que le jour où...
La qualité de l'enseignement,
oui, Franck.
Au niveau d'abord de la conscience de l'éducateur, de la personne qui doit transmettre cette
tout à
matière
fait.
Dans les cerveaux
c'est pourquoi
des
nous,
enfants.
C'est pourquoi
si c'est
un agent
éducatif, l'éducateur, l'enseignant est maltraité, il va travailler moyennant quelle motivation, même si on lui donnait une machine pour ses travaux. Et je crois que c'est un problème qui doit concerner tout le monde, la présidence, les conseils exécutifs, le gouvernement et le parlement, parce que on ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'on a ajouté 40 000 ou 40 dollars aux enseignants.
Voilà.
Bon. Ça représente
je crois qu'on a compris le message, Franck. On a compris le message.
Le projet en soi
oui.
est louable, mais il y a des préalables et des fonds qu'il faut repenser.
Il faut repenser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Alors, on revient à vous, Madame Chantal Bouindoua, avant que nous accordions la parole à Dominique Miguicha, qui est le conseiller principal au numérique à la présidence de la République. Qu'est-ce que vous avez quel sentiment, quelle impression lorsque les auditeurs, certains souhaitent, ils apprécient l'idée que vous avez apportée, les nets à l'école, c'est-à-dire doter les enseignants des ordinateurs et en partenariat avec les banques, donc vous l'attendez que le cutus des gouvernants. C'est-à-dire soit de la présence des républiques, soit des gouvernements.
Voilà. Alors, je veux dire, vous voyez bien, même le conseiller l'a dit, le numérique, c'est une obligation. Et c'est la meilleure réponse aujourd'hui en ce qui concerne l'enseignement. Alors, il a parlé de beaucoup de choses. Voilà. Nous faisons partie de la société civile. Nous sommes là pour appuyer, n'est-ce pas? Nous avons vu un problème. Et ce que nous proposons, c'est un programme qui va, en un temps record, former les enseignants. On ne parle pas de Kinshasa, mais toute la République. C'est un programme qui va s'étaler dans toutes les provinces. On aura des coordinations. C'est différent. On va faire la part des choses. Le School Lab, c'est, j'ai bien compris, c'est une plateforme où on trouve les ressources éducatives. Les cours sont là, voilà, avec les exercices, etc. Mais là, où est l'enseignant dans tout ça? Le préalable, c'est l'enseignant. C'est lui d'abord qui doit savoir manipuler cet ordinateur pour pouvoir donner le devoir à l'enfant qui va travailler à la
tout
maison.
À
On a fait l'inverse. On s'est occupé des élèves d'abord, avant de s'occuper de l'enseignant. C'est l'enseignant d'abord. C'est l'enseignant
qui est censé transmettre les savoirs.
C'est lui qui est censé transmettre le pouvoir, le savoir. C'est pour ça que nous insistons. Nous formons rapidement les enseignants. Nous avons les modules de formation qu'on va télécharger dans
adapté.
C'est l'UNESCO qui a élaboré. C'est une série de modules. Donc nous allons faire l'introduction. C'est comme une comme ils l'ont appelé l'alphabétisation numérique. L'alphabétisation numérique. Alors c'est cette partie-là où nous allons nous concentrer. Alors, l'ordinateur sera dans l'ordinateur sera chargé tous ces modules.
Tous ces modules et l'enseignant
et d'autres, pourra avoir... Et d'autres logiciels éducatifs.
Voilà, merci beaucoup Madame Chantal Bouendoua. Le temps de donner à Dominique Amiguicha le dernier mot. C'est vrai, bon, il y a plusieurs partenaires. Est-ce que vous avez dû élaborer un plan de partage des formations, de partage des idées avec tous ces partenaires, Monsieur Amiguicha?
Au niveau de la présidence de la République, nous sommes dans un cadre de la mise en œuvre d'une vision, celle du chef de l'État qui a été traduite pour ce qui concerne le secteur numérique dans un plan, je l'ai dit. Et aujourd'hui, la mise en œuvre du plan national numérique fait le 9 du programme d'action du gouvernement de son excellence, Sama Lukonde Kyenge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement est maintenant a pris le relais pour la mise en œuvre. Alors, moi je propose ceci. Je propose que vous puissiez donner mes coordonnées à aux personnes qui portent cette initiative pour que d'une part je puisse les recevoir. Je propose que le ministre de l'EPSP puisse organiser une activité regroupant l'ensemble de ces listes. CEO.
Voilà, on est en train de vous perdre. J'ai compris que vous avez donné l'écutus d'avoir les contacts de ceux qui pilotent ces projets pour que vous puissiez une fois encore en discuter. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Amiguicha. Nous rappelons que vous êtes le conseiller principal en numérique à la présidence de la République. Et merci de nous avoir honoré de votre présence en ligne pour échanger avec les uns les autres. Et nous disons également merci à Madame Chantal Bouhendoua, responsable de la coordination de l'ONG Lunet à l'école. On doit se quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Le rendez-vous est pris pour demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence d'appel.